VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les élections au Nigeria. Le principal parti de l'opposition nigériane a demandé des comptes au gouvernement sur sa gestion du conflit dans le nord-est du pays contre le groupe djihadiste Boko Haram, qui intensifie ses attaques et a tué au moins 44 militaires au cours du week-end. Atiku Abubakar, le candidat du Parti populaire démocratique PDP à la présidentielle de février 2019, où il affrontera le président Muhammadu Buhari, a envoyé un message de condoléances au message des familles des victimes et dénoncé jeudi dans un communiqué le manque de moyens mis en œuvre dans l'armée nigériane pour combattre les djihadistes. Et élection en Afrique toujours. Au Sénégal, la coalition du président Macky Sall a lancé la mobilisation pour sa réélection dès le premier tour, alors que ses principaux rivaux ont été écartés de la course par des décisions judiciaires. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le parti au pouvoir a lancé son rouleau compresseur à 3 mois de la présidentielle au Sénégal. Le 24 février, jour du premier tour à 18h, le tour sera déjà joué, a déclaré le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dion lors de la réunion d'investiture du président sortant, organisée par les cadres de la majorité, selon des propos rapportés jeudi dans la presse sénégalaise. D'autres cérémonies sont prévues ces prochains jours par des sections du parti au pouvoir, APR, Alliance pour la République. Le congrès de l'investiture officielle du président Macky Sall aura lieu le 1er décembre à la Dakar Arena dans la ville nouvelle de Diamnadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale, a indiqué jeudi un responsable de la communication de la majorité. Face à Macky Sall, élu pour 7 ans en 2012, l'opposition peine à faire émerger un candidat. L'ancien maire de Dakar, Ali Fa Sall, révoqué après la confirmation en appel en août de sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, ne peut miser que sur un hypothétique succès de son pourvoi en cassation pour encore espérer pouvoir se présenter. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wad, Karim Wad, a quant à lui bien été investi par le Parti démocratique sénégalais, PDS, mais il a été radié des listes électorales après sa condamnation en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel. Macky Sall a toutefois évoqué la possibilité d'une amnistie en faveur de Karim Wade et de Khalifa Sall, mais après sa réélection.
Relations Afrique-France, le président français Emmanuel Macron va recevoir ce vendredi un rapport proposant une évolution de la législation afin de restituer aux États demandeurs des milliers d'œuvres d'art africains arrivées en France pendant la colonisation et se trouvant toujours dans les musées français. Ce rapport, dont l'AFP a consulté un exemplaire, dresse un inventaire précis des dizaines de milliers d'objets d'art que les colons ont ramenés d'Afrique entre 1885 et 1960. Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine artistique africain se trouverait hors de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le célèbre musée des civilisations d'Abidjan, pillé lors de la crise post-électorale de 2011, a lancé hier un manifeste de la collection fantôme. L'objectif, sensibiliser à la protection du patrimoine artistique et dire non à la culture du vide. Des détails avec Irénée Herman Ongbo.
En signant ce manifeste, je m'engage à protéger le patrimoine de mon pays et à refuser que les trésors nationaux tombent dans l'oubli, conclut le texte qui rappelle l'existence de la collection disparue. Le manifeste sera distribué dans les 2 districts autonomes et dans chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. Il doit être signé non seulement par les autorités, mais aussi par les citoyens. En faisant de cette collection disparue une collection fantôme, les Ivoiriens refusent non seulement de la laisser mourir, mais également s'engagent ainsi à agir pour que les objets perdus restent dans les consciences et participent d'une sensibilisation générale. Nous voulons jouer au niveau des comportements, amener les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité de préserver le patrimoine, explique Sylvie Memel-Cassi, directrice du Musée des Civilisations. Le musée va d'ailleurs organiser en 2019 une exposition collection fantôme avec des photographies des pièces similaires aux pièces disparues, ainsi que des travaux d'élèves d'Abidjan et d'Evry en banlieue parisienne qui ont travaillé sur le sujet. Il y aura aussi des vitrines vides pour bien montrer que les pièces sont manquantes, précise Madame Memel-Cassi. Le musée complètement rénové après 2 ans de fermeture a rouvert ses portes en 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, les avocats de l'État ne se sont pas présentés jeudi au procès sur le drame de Tchakona à Talangaï. Il s'agit de la mort de 13 jeunes dans un commissariat de police. Et l'État congolais, reconnu civilement responsable par le juge, doit assister au procès. Des explications avec le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville, Arsène Séverin.
L'audience d'hier n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Les débats se sont focalisés sur la participation ou non de l'État au procès, cité civilement responsable dans cette affaire. Pour les avocats de la partie civile, il faut que l'État soit représenté à ce procès. Selon maître Eric-Yvan Ibuanga, la présence de l'État faciliterait la comparution des officiers de police que la partie civile compte citer au cours du procès. Le parquet de Brazzaville a estimé avoir fait son travail en déposant la saisine du tribunal auprès du ministère de la Justice, demandant à l'État d'être représenté. Désormais, la balle est du côté du tribunal, a déclaré le procureur de la République. De leur côté, les avocats de la défense, qui ont la charge d'une douzaine de policiers, ont plaidé pour que le procès aille vite dans le fond, car la loi congolaise ne reconnaît pas la responsabilité pénale d'une autorité morale. Le jugement a donc été renvoyé au 6 décembre, un renvoi ferme pour permettre à l'État de se constituer et de suivre les débats. En juillet dernier, 13 jeunes avaient trouvé la mort dans un commissariat de police à Talangaï. Les parents avaient porté plainte contre l'État. 12 policiers, dont 2 adjudants-chefs, sont accusés d'homicide involontaire et comparaissent comme détenus à la maison d'arrêt. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, le président du parti d'opposition UDP, l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, exige du gouvernement la clarification de la situation dans le Tibesti, région du nord du pays en proie à la violence armée. Max Kemkoy invite les deux protagonistes, gouvernement et groupe rebelle, à la table de négociation afin d'épargner la vie des civils. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Quand les Tchadiens meurent, un homme politique responsable ne peut se taire, estime Max Kamkoui, président de l'UDP. Il appelle à la cessation immédiate des hostilités meurtrières et d'envisager une négociation pour une solution politique.
Déclarer utiliser tous les moyens dans le jargon de la guerre suppose aussi l'usage même des armes chimiques si celles-ci se trouveraient à la portée du gouvernement. Le gouvernement doit sortir de la surenchère verbale et de la rhétorique guerrière pour traiter le problème en appelant les choses par leur nom et non de se cacher derrière les épées. Peut-être facile ou un habillage de réalité. Un groupe armé est un groupe armé. S'il est constitué et qu'il a un nom, les Tchadiens veulent savoir qui est-il, quelles sont ses revendications. Que veut-il ? A-t-il raison ou tort d'agir de la sorte ?
Une sortie médiatique qui fait suite à celle de l'ex-ministre en charge de la sécurité publique. Ahmad Mohamed Bachir avait déclaré que le gouvernement tchadien n'entend pas négocier avec les groupes armés, mais envisage plutôt une option militaire.
On n'a pas à négocier avec des voyous ou des mercenaires. Être mécontent et prendre une arme et venir demander la négociation, aucune négociation. À la guerre comme à la guerre.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya, indique pour sa part qu'il n'y a pas un groupe constitué de rebelles sur le territoire tchadien. Ceux qui écument les localités de Mieski et Yeboubou sont des terroristes.
Les rebelles sont où et à quel niveau? Nous faisons face à des groupes armés, il faut bien le préciser, qui raquettent, qui rançonnent les pays des citoyens et ils doivent être traités comme tels.
Et le président de la République a toujours tendu la main à tous ceux qui veulent rentrer. Il y a même une amnistie. Si les gens veulent vraiment participer au développement du pays, ils doivent en tout cas saisir cette perche-là. Ceux qui s'opposent au gouvernement, je crois qu'il n'y a pas autre solution que de leur opposer les armes. Et ça, c'est clair.
Le président de l'UDP, Max Kamkoï, déclare par ailleurs que le problème qui se pose au nord et à l'est du pays est d'ordre politico-administratif et non un problème militaire.
Non, une population n'est pas d'accord avec une réorganisation ou un découpage administratif. Quand une population réclame ses droits à travers la demande d'application du code minier quant à l'exploitation aurifère, laquelle exploitation doit dégager une redevance à reverser à la zone productrice, si celle-ci se fait de façon industrielle, tout ça n'est qu'une revendication légitime et le pouvoir doit entendre.
Max Kamkoui exige du gouvernement l'arrêt immédiat des bombardements disproportionnés dans la province de Tibesti. Il lance un appel aux organisations humanitaires d'abréger les souffrances humaines de la population des localités en proie à la violence, déportées à Faya, chef-lieu de la province du Borku. André Kodumadingar Ndjamena, VO Afrique.
Crise migratoire pour terminer. Les autorités espagnoles ont annoncé avoir secouru jeudi 778 migrants à bord de nombreux canaux dans l'ouest de la Méditerranée. Depuis janvier, environ 50 000 migrants clandestins et réfugiés sont arrivés en Espagne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.